Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez sans trop le savoir. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Et une série de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2021 à Reims. Bienvenue dans l'épisode 4. Le programme de ce quatrième numéro de « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» va nous faire voyager dans de nombreux quartiers rémois. En fin d'émission, nous découvrirons les actions du Crépi Grand Est, le club régional d'entreprise pour l'insertion, et leur temps de rencontre intitulé « Les voies de l'emploi ». Nous partirons également dans les locaux de Reims Espoir, à Croix-Rouge, pour un projet qui associe le football, l'arbitrage, mais aussi les pratiques artistiques. Mais notre premier invité est Mokhtar Benzaidi de l'association CEDO. Si vous aimez le rétro gaming, il est temps de rebrancher votre vieille Sega. Vous êtes prêts ? Place à CEDO.
Bonjour, je m'appelle Benzaidi Mokhtar, je suis président de l'association CEDO. C'est une association qui a pour vocation de faire découvrir un peu le monde du rétro gaming, les jeux vidéo des années 80, 90, 2000, et d'essayer de sensibiliser les jeunes autour des addictions aux jeux vidéo, notamment en faisant un parallèle entre l'ancien jeu vidéo et les jeux vidéo actuels. Notamment autour des addictions sur les jeux en réseau, sur le renfermement sur soi-même, enfin le risque qu'il peut y avoir sur le renfermement sur soi, le repli sur soi, pardon, en jouant trop en réseau sur certains jeux, le décrochage sur la vie sociale. En fait, on a une passion du jeu vidéo qui a commencé il y a déjà de nombreuses années. Et cette passion, en fait, elle nous a amené à évoluer aussi avec le temps. Et les technologies aussi, forcément, puisque les nouvelles consoles ont grandement évolué, mais la consommation aussi. À l'époque, les jeux vidéo servaient vraiment de jeux ludiques, comme pouvaient l'être les jeux de société ou tout autre. Mais on jouait pas longtemps parce que il y avait pas encore le système de sauvegarde qui était aussi évolué qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le jeu en réseau, il n'y avait pas le en ligne, il n'y avait pas Internet. Même s'il y avait déjà des jeux qui étaient avec des thématiques un peu justes au niveau jouabilité, notamment des jeux d'horreur ou des jeux de guerre, mais on n'avait pas ce réalisme qui poussait le réalisme à l'extrême et qui faisait que le joueur est tellement en immersion aujourd'hui que pour certains ils pensent vraiment faire la guerre et que le parallèle entre la réalité et le virtuel, il devient très mince. On a commencé à voir ce phénomène arriver avec l'apparition des jeux en réseau et l'apparition d'Internet. Donc je diabolise pas du tout ce phénomène, parce que le jeu vidéo en soi, c'est une très bonne chose. Nous-mêmes, on est des joueurs de jeux vidéo, on est une association qui préservons les consoles et qui voulons transmettre cette culture et cet art, parce qu'aujourd'hui, le rétro gaming est un art à part entière. Mais surtout, donner un côté sensibilisant. Alors ce côté sensibilisant, il vient aussi de mon métier d'animateur. Je suis animateur socioculturel dans la vie, donc ce côté un peu sensibilisant, il vient de mon métier, de mon parcours professionnel, mais aussi de ma relation avec les autres. Et le rétro gaming, en fait, c'est une manière de dire qu'à l'époque, on jouait aussi aux jeux vidéo, mais on y jouait 2-3 heures, et puis après, on allait s'éclater avec nos potes, faire un foot, prendre nos vélos, enfin voilà, jouer à l'extérieur. Donc il y avait une sociabilisation qui se faisait à travers le jeu vidéo, parce que on pouvait pas jouer à 8 sur la même console, et c'était au tour par tour. Donc ça devenait vite lassant en fait, et on se retrouvait à jouer dehors. Mais par contre, on se retrouvait entre potes. Donc du coup, ceux qui jouaient, bah jouaient, et les autres, ils discutaient entre eux. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas en fait. Les jeunes, ils se renferment dans leur chambre, ils mettent un casque, ils jouent en réseau avec des gens qu'ils connaissent pas, ou alors qu'ils connaissent, mais qu'ils voient pas. Et ce qui fait que bah, pour certains, ou certaines, parce que il y a autant de joueurs que de joueuses aujourd'hui, et que ces jeunes ou moins jeunes, hein, parce que ça touche vraiment toutes les couches de la société, toutes les tranches d'âge, se retrouvent enfermés et isolés. Alors ça peut s'expliquer sous différentes formes, notamment sous différentes manières, notamment par le fait que bah, soit on refoule la société parce qu'elle ne nous plaît pas dans son état actuel, et donc on vient se réfugier dans le jeu vidéo, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes à l'école. Où il y a un problème identitaire, quand je parle d'identité, c'est de soi, un problème avec soi-même, manque d'assurance, manque de reconnaissance, la clarté dans la place dans un groupe, elle n'y est pas ou elle est inexistante, et c'est ce qui peut engendrer un renfermement et un repli sur soi dans le monde du jeu vidéo, parce que aujourd'hui on peut jouer un héros les jeux vidéo, et à travers ce héros, bah, avoir la vie qu'on n'a pas dans la réalité, quoi. Et nous, on essaye, alors, à notre mesure à nous, parce qu'on n'est ni psy, ni sociologue, pour comprendre la société, on est juste des passionnés de jeux vidéo qui avons compris ce qui était avant et ce qui est aujourd'hui, et d'essayer de faire le parallèle et le lien entre les deux. Alors, comment on fait le lien entre les deux? Bah, tout simplement en essayant d'amener les parents à découvrir le monde du rétro gaming, puisque souvent, c'est une tranche d'âge qui a connu ces consoles et qui a connu ces jeux à l'époque. Et de leur permettre de le faire découvrir avec leur enfant. Et les jeunes, bah, de leur faire découvrir le monde du jeu vidéo rétro, en leur proposant des ateliers d'animation avec des consoles rétro gaming et leur proposant des parties de jeux vidéo. Pour l'instant, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Ça marche plutôt bien. Ça prend bien. Les jeunes accrochent, vraiment. Ils participent. Et on retrouve un peu cette ambiance qu'on a connue dans le passé, dans les années 80-90, où les bandes de copains se retrouvent autour d'une partie et jouent pas trop longtemps, mais jouent assez pour s'éclater entre eux. Et puis après, bah, ils passent à autre chose. Ils discutent, voilà, ils prennent une pause, ils reviennent, ils reprennent une autre console, ils jouent à un autre jeu. Donc ça, c'est vraiment divers et variés. Et après, on a un deuxième axe aussi, Où pour rentrer dans le premier objectif dont je citais, qui était de sensibiliser, c'est aussi de passer à la création de jeux vidéo. Donc on propose des ateliers de création de jeux vidéo sous différentes formes et pour différents niveaux. Mais la plupart du temps, et assez souvent, on passe par le logiciel Scratch, donc, qui est un logiciel très simple de montage de création de jeux vidéo, qui est très très simple en soi, mais qui explique quand même à travers des blocs la notion de programmation. Donc on peut commencer à initier les jeunes autour de la programmation du jeu vidéo avec le logiciel Scratch. En plus, ce logiciel est vu à l'école, au collège. Donc du coup, il y a un lien qui se fait entre l'extérieur, l'animation et l'école. Derrière ça, en fait, on s'est rendu compte que sur un groupe de 10 jeunes, 30% étaient vraiment attirés par la programmation et le développement de jeux vidéo. La troisième chose aussi, qui est intéressante, c'est de leur montrer l'envers du décor de la création d'un jeu vidéo. Donc on démystifie un petit peu le jeu vidéo en leur disant, bah voilà comment c'est créé. En fait, c'est que des cartes, et c'est que du virtuel, c'est que soit des dessins, soit de la modélisation 3D, mais tout est faux en fait là-dedans, et y a pas de vrais héros derrière qui ont des pouvoirs qu'on pourrait retransposer dans la vie. C'est juste un jeu vidéo, quoi, en fait, et on le décortique et on leur dit vous êtes capables aussi de pouvoir le faire. Donc ça on leur montre et on essaie de jouer avec les deux en fait dans ces ateliers, entre la partie loisir, où ils découvrent le rétro gaming et ils jouent, et la partie création, où là on est dans le pratico-pratique, où là vraiment ils découvrent le jeu vidéo. Donc aujourd'hui on est on réalise un projet en fait, on est dans la réalisation d'un projet où on met en place des ateliers, 5 ateliers par quartier, et on propose ces ateliers, en fait, ateliers rétro gaming et création jeux vidéo. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des jeunes et puis de les sensibiliser, comme je le disais auparavant. Et il y a aussi une spécificité dans ce projet, c'est que on essaie de cibler des publics qui ne fréquentent pas forcément les maisons de quartier sur des territoires politiques de la ville. On était sur la maison de quartier Cerné Europe, on a commencé sur le quartier Cerné Europe sur 5 séances. Et là, on a enchaîné sur Wilson, Louise, Michel. Et demain, ce sera la 5e et dernière séance. Donc à chaque fois, on fait 5 séances. Et la dernière séance, elle se fait avec le CLJ qui propose un atelier, plutôt un temps d'une heure sur la sensibilisation aux réseaux sociaux et sur les objets connectés. Alors en fait, la dernière à Wilson, c'est demain. Après, il n'y en aura pas pendant cet été parce que l'association est très prise, notamment sur un été à Reims, sûrement ou peut-être sur un quartier, sur le quartier d'été aussi, sur le dispositif quartier d'été. Donc c'est deux dispositifs qui demandent beaucoup de temps. Mais il y a aussi des interventions sur... Il y a des ateliers qui vont être mis en place dans des accueils de loisirs ou par d'autres associations qui nous sont demandés par d'autres associations aussi pendant le mois de juillet et au mois d'août. On est aussi en préparation d'un événement sur les magasins généraux 3. Il y a le 20 et 21 août, il y aura peut-être sûrement un événement qui va être mis en place là-bas. Donc ce qui fait que le planning pour juillet-août, il est assez serré. Donc,
et puis les jeunes sont aussi difficiles en plus à capter.
Ouais, ils sont en vacances ou alors ils sont dans des dispositifs. Voilà. Alors à la rentrée, après, on enchaîne sur deux autres quartiers, parce qu'il était prévu 4 quartiers. On enchaîne sur 2 autres quartiers, on va enchaîner sur Maison Blanche et Châtillon. Donc la spécificité de Châtillon, c'est que là, pour le coup, on ne sera pas accueillis par la maison de quartier. Alors pas que la maison de quartier ne veuille pas nous accueillir, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est que pour le coup là on avait voulu jouer la carte du partenaire association, petite association avec petite association en fait. Et il y avait le FC Cristo qui est un club de foot à la base et qui dispose d'un local, d'un endroit qui peut accueillir du public et qui se prête bien à ses ateliers. Donc on va être en partenariat ensemble. Et bien sûr, la maison de quartier sera invitée sur les ateliers, ça n'a aucun souci. Mais et puis on travaille très bien avec la maison de quartier Châtillon, mais on fera OFC Cristo pour Châtillon. Voilà, sur 5 séances aussi, à chaque fois c'est 5 séances. Et en décembre, on aura un temps fort où on va réunir tous ces jeunes pour faire une rétrospective un peu de ce qui s'est passé, refaire des ateliers Scratch avec eux, et proposer un gros atelier, là, plutôt un événement rétro gaming où là on va sortir toute la panoplie pour que les parents, les enfants puissent jouer ensemble, s'amuser ensemble en fait, et puis aussi découvrir la création de jeux vidéo par les parents de leurs enfants en fait.
Donc sur les événements ou les ateliers, c'est vous qui venez avec l'ensemble des consoles, tout ce qui est nécessaire quoi.
Ouais, ordinateur, console. Bon, après on n'a pas...
Vous jouez sur quelle machine? Enfin, vous leur proposez de jouer sur quel
Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo NES. Alors, on essaye plutôt de montrer des consoles où on a plus de chances de se dire que les parents les ont connues, en fait. En général, c'est Sega et Nintendo. D'ailleurs, tout le nom de l'association, hein, CEDO, hein, qui veut dire Sega et Nintendo, c'est la contraction des deux. On propose ces consoles. Mais après, quand on crée des événements, parce qu'on en fait aussi, quand on crée des événements, quand on a des événements à faire, là, on amène d'autres consoles qui sont peu connues du public, parce qu'il y a des connaisseurs. Et là, on peut vraiment montrer toute la panoplie des consoles qu'on a. Mais pour les jeunes, on leur montre, on met à disposition des consoles du Sega, Nintendo. Et en plus, comme il y a eu une réédition de ces consoles en format mini, donc avec déjà 30 jeux ou 40 jeux intégrés, c'est beaucoup plus simple pour nous à transporter. Et puis pour eux, ça leur donne aussi un panel de choix, 100 mètres de cartouches à chaque fois, de pouvoir jouer directement à plusieurs jeux s'ils ont envie.
Alors vu que vous avez déjà quasiment fini deux séries d'ateliers, quels sont les retours des jeunes, alors que ce soit sur la partie rétro gaming ou la partie programmation ?
Alors, on est assez... à chaque fois, on est surpris parce que les jeunes, en fait, ils sont eux-mêmes surpris au départ. Parce qu'on voit l'appréhension au premier atelier. On le voit quand ils entendent parler jeux vidéo, ils pensent tout de suite console nouvelle génération. Et ils s'attendent à ça, en fait. Et quand ils voient que c'est des consoles qu'ils connaissent pas ou alors qu'ils ont à peine entendu parler... et qu'ils commencent à jouer, ils sont vite pris en fait par le jeu et on n'a eu aucune perte en fait d'enfants. Quand je dis perte, c'est-à-dire de décrochage d'enfants qui.
Ce qui est assez rare sur
une activité. Qu'un enfant dise j'ai plus envie de jouer, moi ça m'intéresse plus. Non, en général, c'est voilà, ils sont tout le temps, ils sont à fond, que ça soit sur la création ou que ça soit sur la partie jeux vidéo, rétro gaming. Et sur la partie création, alors. On a, comme je le disais, 30% à peu près des enfants. Là, pour l'instant, on a eu 24 enfants, 24 préados. À chaque fois, c'est des groupes de 6, chaque mercredi. Donc, ça switchait à chaque fois. Donc, il y a eu 24 préados sur les deux quartiers. Sur les 24, il y en a à peu près 5-6 qui ont vraiment accroché sur la création de jeux vidéo et qui voudraient aller encore plus loin. Pour les autres, c'est quelque chose qui les a vraiment intéressés, qui leur déplaît pas, mais c'est pas quelque chose qu'ils feront toute une matinée, quoi. L'atelier leur suffit, ils savent maintenant que ça existe, d'autres veulent le refaire chez eux, et par contre, il y en a, oui, qui voudraient aller encore un peu plus loin dans les ateliers. Alors quand je dis plus loin, c'est passer vraiment du côté programmation pure. Là, c'est un peu complexe, et on pourrait pas... faire un stage de 2 heures ou d'une matinée sur la programmation. Ce serait mentir et tricher auprès des préados si on leur disait qu'on pouvait leur apprendre la programmation informatique en 4 heures.
Alors on a bien compris que l'agenda de l'association était déjà bien rempli, tout cas jusqu'à la fin de l'année 2021. Mais néanmoins, si on désire vous contacter ou avoir plus d'infos sur la partie événementielle par exemple, comment fait-on ?
Alors, on a un Facebook qui s'appelle Retro Good Game. Donc, on peut nous contacter facilement dessus. On avait un site internet. Et là, il est en complète refonte. Donc, on est en train de le refaire complètement. On le refait et on va le remettre sur l'hébergeur. Donc, on aura un site très, très prochainement où on pourra... aller et découvrir un peu ce qu'on fait et puis nous demander des infos. Sinon, sur le Facebook, il y a vraiment toutes les informations parce que c'est un Facebook qui est dédié qu'à l'association. Et dessus, il y a nos coordonnées, il y a notre numéro de téléphone, adresse mail, il y a tout ce qu'il faut. Et sinon, on peut nous joindre aussi à travers l'annuaire des associations puisqu'on y est aussi. On est basé à la ville de la maison associative, rue du Barbate. Donc on est là-bas. Et très prochainement, on aura sûrement un autre endroit où on sera basé. Et là, on pourra accueillir du public à la rentrée.
Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Dans mon quartier est une série d'émissions qui vous fait découvrir des projets rémois réalisés dans le cadre de politiques de la ville. Nous quittons à présent l'univers du jeu vidéo pour rejoindre Reims Espoir et l'association 2303. Reims Espoir nous a accueillis dans son local au début de l'été 2021 pour nous présenter leur ambitieux projet autour de la thématique de l'arbitrage dans la pratique du football, mais aussi l'action artistique qui va découler de ce temps fort.
Bon, je m'appelle Tanya Ngango Olizi, je suis responsable de l'école de foot à l'association sportive Reims Espoir. En même temps, je dirige le côté technique en m'occupant des éducateurs, ouais, dans le déroulé des sciences. Et bref, voilà mon rôle dans l'association sportive.
Yvan Poliard, chargé du projet pour l'association 2303, association qui est dédiée aux pratiques d'art contemporain et à la diffusion en fait en dehors de lieux dédiés, tout simplement. Voilà un peu pourquoi on travaille aussi avec l'AS Reims Espoir.
Alors si nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'AS Reims Espoir, c'est donc pour parler de ce projet commun que vous êtes en train de monter ensemble dans le cadre des projets politiques de la ville. Est-ce qu'il est possible de nous dire comment s'est fait cette rencontre, avant même de parler du cœur de projet, comment l'AS Reims Espoir a rencontré l'association 2303?
Ça date en fait de 2019. Et donc c'était dans le cadre aussi, il y avait la Coupe du Monde féminine. Et donc il y a eu possibilité de réfléchir sur la mise en image des pratiques sportives dans le cadre de la Coupe du Monde féminine. Et donc l'association 2303 qui fait des images, eh bien c'est rapproché de... à l'époque c'était CIRES. Et donc on a monté un projet commun sur la captation et la mise en image de la pratique du foot, à la fois par des artistes qui sont intervenus. Il y avait Valérie Pelletier et moi-même, et les jeunes gens qui pratiquent le football, voilà, tout simplement. Et ça s'est clôturé par un tournoi au moment duquel on a montré les captations, les photographies, le son, voilà, au cours d'une journée, un moment convivial en fait, avec l'équipe de CIRES.
Alors en 2021, vous avez l'envie de collaborer à nouveau ensemble, pour quel projet?
Pour les mêmes principes, c'est-à-dire bien entendu en allant dans la même lancée que les années précédentes, et surtout de monter ensemble les projets collaboratifs qui pourront bien entendu aider l'association à pouvoir mieux voler de ses propres ailes, quoi. Donc ça nous a poussé à réfléchir sur un projet que nous avons nommé Jeu, vous et nous arbitrons, qui va certainement se dérouler plus précisément à partir du mois d'août, et qui va se clôturer, on va dire, ça sera sur 5 à 6 séquences. Et voilà, donc j'aurai l'occasion de vous présenter dans l'ensemble du projet.
Je veux bien qu'on me présente dans l'ensemble le projet et comment vous articulez ces notions autour de l'arbitrage et justement la participation de 2303.
Ouais, en fait, ce projet, il est construit avec la collaboration de l'équipe des bénévoles, des éducateurs et les éducatrices de l'association LAS Reims Espoir, située bien évidemment sur le quartier Croix-Rouge. Voilà, ce projet, il fera l'objet d'un jeu de rôle. Le jeu de rôle qui permettra à chacun de jouer, bon, on va dire bien entendu le rôle, c'est-à-dire de tour à tour entre joueurs et joueuses, éducateurs et éducatrices, spectatrices, ici je désignerai les parents, voilà, qui sont souvent habilités à accompagner leurs enfants pendant les matchs, qui se déroulent souvent sous forme de plateau. Cette situation, bien entendu, permet de prendre conscience des droits et des voix de chacun autour du terrain et sur le terrain par la pratique de l'arbitrage, et qu'on se voit aussi qu'un bon arbitrage est celui qui ne se voit pas. Donc, du coup, cela permet aussi de conscientiser des joueurs, des joueuses, des éducateurs, des éducatrices, bien entendu les spectateurs et les spectatrices, je nommerai ici les parents, comme je l'ai dit plus haut, sur l'aspect des règles d'arbitrage et sur le respect de l'arbitre. Savoir par exemple qu'une faute sifflée par exemple de l'arbitre doit être d'abord respectée sans être contestée. Bon, donc, ceci amène donc un aspect assez purement éducatif chez les joueurs, enfin chez les différents publics que j'ai cités un peu plus haut. Et voilà, c'est dans cet aspect-là qu'on a réfléchi pour pouvoir tirer ces liens, les liens que j'ai suscités, c'est-à-dire les liens entre les joueurs et les liens entre les joueurs entre eux, les parents entre eux et les éducateurs entre eux. Donc, ce qui permettra de mieux circuler l'aspect éducatif qui est perçu sur l'arbitrage. On va dire par là, ça va faire quoi? Ça va faire une transversalité entre le respect des règles chez les jeunes, que ce soit à la maison, que ce soit en société, et bien entendu, pendant qu'ils pratiqueront le sport, ça les permettra de savoir qu'il y a des règles à respecter. Voilà, sur cette image de l'arbitrage. Donc, le déroulé de ce projet dans sa perspective consiste à créer, à partir de la pratique de l'arbitrage et du football, un dispositif artistique. C'est là d'où vient la collaboration avec 2303, et dans lequel les dimensions sonores et visuelles seront exploitées, explorées, ce qui permettra de réaliser un projet culturel et justement artistique et représentatif sur des divers résidents du quartier Croix-Rouge. Donc on aura sur le déroulé du projet la mise en place d'ateliers de création artistique autour de la pratique justement mixte, je dirais ici entre les féminins, les garçons et les filles qui pratiquent justement le foot ou le sport, et plus particulièrement de son arbitrage sur le territoire durant la période allant du mois de, on a dit tantôt, du mois d'août, et qui finira au mois de février, sur les 6 séquences du déroulé du projet. Il se conclura par un tournoi entre différentes catégories, comme je disais tantôt, mixte, c'est-à-dire masculine et féminine, et d'une production sonore et visuel et résultant justement du projet. Donc c'est justement là où il y a la collaboration avec 2303, et c'est d'où est né le projet Jeu, vous et nous arbitrons. Donc à noter aussi qu'on bénéficiera de l'apport technique venant du district de la Fédération française de football de la région, qui nous fera bénéficier de la présence sur le projet des arbitres qualifiés qui auront à charge d'animer les différents ateliers. Voilà. Et bien entendu, ils auront, dès l'ouverture du dit projet, l'occasion de répondre aux différents publics, toutes questions ouvertes autour de l'arbitrage.
Concernant les ateliers artistiques, des intervenants de l'association sont déjà ciblés?
Alors ça dépendra de leur disponibilité, mais on sera sur le son et la vidéo. Et aussi la photographie, voilà, on va se concentrer sur le langage non verbal aussi dans le sport, et puis dans l'application à la fois des, comment dire, la communication entre les différents groupes que sont l'arbitrage, ils sont un trio généralement, les éducateurs ou entraîneurs, les joueurs et le public. En fait, il y a tout ça qu'on peut réfléchir et intercaler et proposer des jeux de relations par rapport à l'image, et le son n'est que accessoire presque. la posture ou la, le, comment dire, la raideur ou la souplesse dans la gestuelle des différents acteurs eh bien, est tout aussi importante que l'application des règles écrites pour le jeu. Voilà, c'est un peu cet aspect-là que nous aborderons par des ateliers qui vont se tenir en même temps que les phases de médiation arbitrale. Et donc les enfants, parce que ce sera plutôt des enfants, mais il y aura aussi, je l'espère, des adultes, publics et éducateurs qui participeront. Parce que le but du jeu, c'est aussi de comprendre comment on communique aussi par son corps, sans forcément verbaliser les choses. Et une interprétation peut être bienveillante ou malveillante en fonction de sa propre posture. Voilà, donc il y a tout un jeu comme ça. Et donc les joueurs et éducateurs pourront se capter et se mettre en scène aussi par rapport à l'arbitre. Et puis on espère aussi mettre en scène les arbitres, bien sûr.
Les ateliers donc pour la prise de photos ou de vidéos, on comprend bien que ça va en grande partie se passer sur les lieux où ça joue, quoi. Mais après, est-ce qu'il y a du travail de montage qui sera vu avec les jeunes, de sélection des clichés?
Alors, c'est envisagé et envisageable. Après, c'est aussi la pratique du foot est exclusif. Et parfois, les enfants qui aiment le foot adorent le foot et uniquement le foot. Et donc, passer à l'image, parfois capter, c'est déjà un grand effort pour les joueurs et joueuses. Et donc, il sera envisagé de les amener à traiter ces images et à les sélectionner, bien sûr. Parce qu'il y a une dimension publique à ces images, et donc il faudra préparer en fait l'exposition. Et donc ça devrait être assumé aussi en tant que sa propre représentation. Et donc il y a des questions de représentation aussi par rapport à son image publique.
Est-ce que le lieu d'exposition est déjà décidé, ou est-ce qu'il y a encore des choses à voir, à réfléchir?
Avant de répondre à la question, j'aimerais aussi préciser en fait cet aspect sur en fait ce projet aussi nous souhaitons et nous espérons que ça amènera aussi ceux qui participeront, c'est-à-dire les différents publics, à s'intéresser à la profession d'arbitrage. Bon, c'est aussi ça le but, c'est que j'ai omis de préciser bien plus loin. Bon, quant au lieu, le lieu du déroulé, c'est ça?
De
l'exposition. De l'exposition, oui. Ça se déroulera sur les installations du jour André. Voilà, donc, c'est là où, normalement, tout se fera.
Par exemple, en général, les expositions sont d'abord faites au sein du groupe qui a travaillé, pour voir si le groupe de collaborateurs est prêt à diffuser publiquement les images, et ça c'est primordial. Et donc une première expérience au sein du groupe est fondamentale pour pouvoir envisager une exposition tout public. A priori ça se fera d'abord très proche de Géant André, là où on joue au foot et où seront menées les actions de médiation autour de l'arbitrage.
Combien de jeunes sont concernés par le projet? Alors peut-être que les parents, c'est un peu plus difficile à quantifier pour l'instant, mais est-ce que vous avez déjà en tête le nombre de jeunes?
En fait, on cible plus précisément y a l'école de foot et les catégories U13 et U14 féminines. Donc du coup, sur le nombre... On va dire, nous avons deux équipes par catégorie, en partant des... voilà, on a ciblé, si vous voulez, à partir des U8, U9, U10, U11, et U12, U13 et les U14 féminines. Ce qui va nous faire environ plus de 60 joueurs, en fait, plus de 60 au niveau des jeunes. Si on y ajoute des éducateurs, on aura deux éducateurs par équipe. Les parents, ce sera inquantifiable parce que on ne sait pas, ça va dépendre de la disponibilité des parents, en fait, les volontaires qui viendront, qu'on espère nombreux aussi. Donc voilà. Donc on va se taper sur un public, on va dire environ au moins 100 personnes.
Écoutez Radio Primitive et l'émission Que se passe-t-il dans mon quartier ? Aujourd'hui, épisode 4. Notre dernier rendez-vous a eu lieu cet été dans les studios de Radio Primitive. Les voies de l'emploi est un projet porté par le CREPI, un projet qui se déploie sur l'ensemble de la ville et qui est constitué de 10 temps forts.
Maude Ulrich, je suis responsable du club régional d'entreprises partenaires de l'insertion sur la partie est de la France, donc qui regroupe l'antenne de Metz, de Nancy et de Reims.
Et donc je suis Caroline Rousset, je suis chargée de communication en alternance au sein du CREPI depuis le mois de septembre.
Alors merci à vous d'être venu à Reims pour nous parler du projet qui a donc été proposé par le CREPI et qui se nomme les Voies de l'emploi. Alors avant même de parler de cette action qui est mise en place dans le cadre de politique de la ville pour l'année 2021, est-ce qu'il est possible de nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le CREPI, quel est son but ?
Alors le CREPI est une association, loi 1901, qui a été créée il y a plus de 28 ans maintenant, par un gros groupe du BTP, dont l'objectif était de répondre aux clauses d'insertion qui étaient inscrites dans le cadre des marchés publics. Donc à la base, les associations étaient essentiellement faites pour recruter des publics éloignés de l'emploi pour répondre aux obligations légales que les entreprises avaient dans le cadre de leur marché. Le CREPI Est, donc CREPI Lorraine anciennement, a été créé il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans, en 2010, et a regroupé des entreprises donc, du territoire pour faire valoir ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément la RSE.
J'attends la définition de RSE.
Donc la RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Au-delà des clauses d'insertion qui étaient inscrites dans leur marché, les entreprises sont soucieuses aujourd'hui d'insérer en fait dans les entreprises des publics éloignés de l'emploi.
Alors vous venez de nous parler du CREPI Lorraine. Alors bien sûr, maintenant on est dans la région Grand Est, mais est-ce que le CREPI a des attaches plus marnaises par exemple, ou dans ce qui est feu la Champagne-Ardenne ?
Alors justement, le CREPI a pris le nom de CREPI Est il y a environ 2 ans par la création d'une antenne sur Reims. Donc la volonté, c'était d'étendre bien évidemment le CREPI au-delà de la Lorraine et de l'inscrire dans un territoire, sur le territoire de la Marne. C'est très, très simplement en fait la Directe qui est venue nous chercher. En entendant parler en fait de l'initiative des associations CREPI, qui sont quand même implantées sur 16 territoires en France, qui a trouvé l'idée originale et intéressante pour les demandeurs d'emploi et qui m'a sollicité en nous disant, voilà, votre objet social nous intéresse, l'objet de votre association nous semble intéressant pour notre territoire. Et donc, du coup, on a créé une antenne sur Reims en novembre 2019.
Si vous êtes là aujourd'hui, c'est donc pour parler plus spécifiquement de ce projet Les Voies de l'Emploi. Comment est-il né ? Qu'est-ce que ce projet a de spécifique par rapport aux missions initiales du CREPI ?
Les Voies de l'Emploi, en fait, c'est né d'un constat où chaque demandeur d'emploi en fait, a un parcours très spécifique, des problématiques spécifiques. Et donc, il est difficile en fait, de proposer la même chose à tous les publics demandeurs d'emploi. Le CREPI, à la base, se compose d'actions, on va dire, originales. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on essaye en tout cas de les rendre originales, qui sont basées sur le lien social et qui permettent en fait aux demandeurs d'emploi de rencontrer en direct des chefs d'entreprise sous des formats de type visite d'entreprise, challenge sport emploi, des rallyes pour l'emploi, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que chaque public, chaque bénéficiaire avait des besoins spécifiques et donc les voies de l'emploi partent du principe d'adapter en fait chaque parcours à chaque individu. C'est pour ça qu'on a décliné en fait les voies de l'emploi en 10 étapes clés qui nous permettent, nous, en lien avec les associations du territoire, puisque ces publics sont issus déjà d'un accompagnement spécifique par une association du territoire, mais de venir en complément apporter la touche entreprise pour permettre à ces publics de rencontrer de manière physique un entrepreneur, un secteur d'activité, un métier, et de l'accompagner au plus près de l'emploi vers des solutions concrètes.
Est-ce qu'il est possible de donner des exemples de ces associations avec lesquelles vous travaillez et justement qui, elles aussi, participent à cette recherche de jeunes publics pouvant ensuite bénéficier de vos actions ?
Alors, il y a très, très basiquement tout le service public de l'emploi que tout le monde connaît, Pôle emploi, les missions locales, les écoles de la deuxième chance. Donc ça, c'est des partenaires très privilégiés qu'on a au sein du réseau. Et puis après, plus au niveau local, on a par exemple des associations ou des entreprises de travail temporaire de type Mando, l'association Rebond. Il y a également ce qu'on appelle en jargon les SIAE, les structures intermédiaires qui accompagnent aussi les publics demandeurs d'emploi. Et là, en fonction des spécificités de chaque demandeur d'emploi, les associations du territoire vont nous envoyer leur public sur nos actions. Ce que j'aime appeler des étapes de parcours, ça enrichit en fait le parcours du demandeur d'emploi. Et une fois que l'étape de parcours a été réalisée par le CREPI, cette personne retourne dans son accompagnement habituel qu'il a avec l'association qui l'accompagne au quotidien.
Alors on a parlé d'étapes, on a parlé de temps forts, de 10 temps forts. Quels sont ces 10 temps forts ? Comment cela se décompose ?
Alors, les 10 temps forts se décomposent donc en visites d'entreprise. Donc, des visites d'entreprise sont proposées aux demandeurs d'emploi en fonction de secteurs d'activité dits en tension. Donc, le secteur d'activité dit en tension, c'est là où il y a plus de propositions d'emploi que de personnes qui postulent sur les postes. On a aussi la volonté de faire découvrir des métiers un peu oubliés, des métiers phares d'un territoire où il y a beaucoup de recrutement, beaucoup besoin en recrutement, et sur des secteurs d'activité ou des métiers qui ont une mauvaise presse ou des a priori plutôt négatifs de la part des demandeurs d'emploi. Parfois, le fait de les déplacer dans les entreprises permet aux demandeurs d'emploi de se rendre compte des réalités du terrain. Et ce qui peut convenir à l'un ne conviendra peut-être pas à l'autre, mais en tout cas, ce sera un avis qui sera propre et personnel.
Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous avez des exemples de secteurs en tension, par exemple sur Reims, ou de ces emplois injustement mal aimés ?
On a, comme un peu partout, les métiers du BTP, qui sont en fort recrutement de main-d'œuvre et qui ont parfois du mal à trouver les publics. Sur les postes proposés, on a tout ce qui est service à la personne, nettoyage, Après, on a également, sur la région champenoise, tous les métiers liés à la vigne et aux vendanges, qui est là très spécifique, que je ne connaissais pas, donc j'ai appris à connaître en m'intéressant au territoire. Et puis les métiers de la restauration, suite post-Covid, c'est encore plus prégnant. Et on a aussi quelques métiers dans l'industrie qui sont parfois boudés parce qu'on a une représentation de l'industrie assez vieillotte, alors que les métiers ont beaucoup évolué. Mais dans le BTP, c'est la même chose. Les métiers se sont beaucoup modernisés. Et donc, c'est ce qu'on essaye aussi de montrer aux demandeurs d'emploi, qui est une vraie plus-value. Je pense par exemple au métier du BTP, où il y a des vrais métiers d'art. Il n'y a pas que manœuvre en bâtiment. On peut vraiment faire des carrières dans le bois, dans la taille de pierre. Enfin, il y a vraiment des très, très belles choses à découvrir. Et là, ça ouvre, en fait, le spectre des possibles aux demandeurs d'emploi, qui souvent, en fait, réduit sa recherche à quelques métiers, alors qu'il y a des métiers, il y en a vraiment beaucoup plus que ce que l'on pense.
Donc je vous ai interrompu, on en était à ces visites d'entreprise parmi vos propositions pour les 10 temps forts.
Alors on a également dans notre panel d'activités proposées des rallyes pour l'emploi qui là sont plutôt à destination de public qui n'auraient pas un projet bien défini. Et on propose à ces publics de découvrir sur 2 jours, je crois que c'est plus de 6 entreprises par secteur d'activité, et de vraiment pouvoir affiner sa recherche et son projet professionnel. On a également un système de parrainage, donc de ce qu'on appelle parrainage vers l'emploi. Donc on est bien sur du parrainage avec des publics qui sont vraiment sur la dernière marche du retour à l'emploi, où il y a encore des freins à lever, mais on n'arrive pas trop à les identifier. Et là, on va demander à un chef d'entreprise de jouer le rôle, justement, pour accompagner cette personne sur la dernière marche qui lui reste à franchir pour le retour à l'emploi. On a également créé un nouveau site internet via notre plateforme crepi.org. Donc, je vais laisser Caroline nous détailler un peu le projet qui est tout nouveau, qui est né pendant le Covid. Donc, c'est un tout dernier né.
Donc, le site d'annonce d'emploi, vous le retrouvez sur notre site internet, donc www.crepi.org. Et en fait, il se divise en 3 volets. Donc, dans une partie, on a tout ce qui est la présentation des entreprises engagées au sein de notre club d'entreprises. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre en valeur les entreprises qui sont engagées dans l'insertion et dans l'emploi. On a également une partie profil de candidats. Donc ici, on présente des personnes en recherche d'emploi qu'on a rencontrées lors d'actions organisées par le CREPI. Donc ici, ce sont des personnes qu'on recommande. Donc c'est un peu un CV amélioré. Et il y a une petite partie recommandation du CREPI où vraiment on détaille un petit peu notre ressenti par rapport aux candidats. Voilà, c'est un peu un petit coup de pouce pour la personne. Et on a aussi une partie annonce d'emploi. Donc ici, nos entreprises membres et entreprises partenaires peuvent nous partager des annonces d'emploi pour des métiers pour lesquels ils ont un peu de mal à recruter ou alors ils nous font confiance et ils nous laissent un peu la main pour choisir des candidats. Et ici, c'est une vitrine pour les entreprises, mais c'est aussi un moyen pour les candidats d'avoir accès direct, à des annonces d'emploi proposées par des entreprises locales. Donc voilà, le but c'est vraiment de pouvoir faire de nouvelles mises en relation de façon plus digitale.
Et on avait fini notre déroulé ou il restait encore des points parmi les 10 points ?
Alors, on a aussi, on a dans notre portefeuille d'activité ce qu'on appelle des challenges pour emploi. Je sais que Reims en organise déjà avec les étudiants de l'UFR STAPS. Donc, on fait ça en collaboration avec eux. L'idée, c'est aussi de faire venir des entreprises et des demandeurs d'emploi, de les habiller avec le même t-shirt sans forcément savoir qui est qui dans un premier temps, d'organiser une pratique sportive et de 45 minutes. Au bout de ces 45 minutes, il y a un temps mort, une pause, parce qu'on est très fatigué d'avoir fait beaucoup de sport. Et là, l'originalité, c'est qu'il y a une partie qui va se mettre derrière une table avec des kakémonos et la présentation de leur entreprise. Et l'autre partie, des fois, on est surpris par qui est qui. Et l'autre partie, des demandeurs d'emploi, qui va venir de manière un peu plus formelle rencontrer les employeurs. Ce qui a permis, l'échange sportif a permis de briser quelques barrières, a permis justement de faciliter les échanges et faciliter les rencontres. Donc les entretiens se font de manière un peu plus détendue. Et on a des très très bons résultats en termes de retour à l'emploi. Dans la manière d'articuler tout ça, l'idée, c'est dans ces 10 temps forts, c'est de pouvoir aussi permettre d'adapter chaque parcours à chaque profil qu'on rencontre. C'est-à-dire que une personne peut passer d'une visite d'entreprise à un parrainage ou un challenge par emploi si on se rend compte que dans cet échange-là, il va y avoir des entreprises intéressantes pour lui, et avancer comme ça petit à petit l'objectif principal, qui est quand même de retrouver un emploi durable et pérenne pour la personne, au-delà de ce qui peut s'apparenter à un peu d'action en présentiel, bien évidemment, mais d'action, c'est pas des recrutements concrets dans un premier temps, mais notre objectif et notre but principal, c'est vraiment d'amener à l'emploi ces publics et de manière le plus durable possible.
Alors nous sommes fin juillet 2021. Où en sont les projets? Est-ce que d'ailleurs ils ont été un peu maltraités par la Covid, en tout cas par la crise sanitaire de cette année? Où ça en est? Et puis peut-être un mot sur le nombre, enfin une estimation du nombre de bénéficiaires sur l'agglomération, sur la ville?
Alors, il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est qu'on est tout nouveau sur le territoire. Donc, la volumétrie des personnes accompagnées progresse de mois en mois. Mais le but n'étant pas de faire du volume, mais vraiment de la qualité. Hein. C'est vraiment un travail de dentelle au quotidien, de mise en relation, de connaissance des trois parties. Hein, une bonne connaissance du réseau d'entreprises membres du CREPI. La deuxième partie, c'est une bonne connaissance des partenaires de l'insertion pour qu'ils identifient bien les actions, qu'ils puissent bien prescrire leurs candidats. Et dans un troisième temps, bien évidemment, la connaissance des demandeurs d'emploi pour bien les orienter et bien les guider. Donc tout ça, ça prend du temps, étant donné qu'on n'était absolument pas identifié avant novembre 2019. Donc c'est un petit travail de fourmi, de prise de contact, de rencontres qui se font au quotidien. Donc ça, tout ça, ça prend forme. On commence petit à petit à avoir un bon réseau. Et bien évidemment, le Covid qui n'a pas aidé forcément, et les périodes de confinement, puisque nous, on est vraiment basé sur des rencontres. Hein. La base de notre travail, c'est la rencontre entre un demandeur d'emploi et un chef d'entreprise. Donc il a fallu être original et puis contourner un peu tout ça par des entretiens en visio. On a fait des visites d'entreprise en visio. On ne visitait pas l'entreprise à proprement parler, mais on a fait venir des chefs d'entreprise qui ont témoigné sur leur métier avec des candidats qui étaient là pour poser des questions. Ça a permis de ne pas couper le lien. Ça n'a pas permis de remporter autant de retours que peut l'être le présentiel. Mais en tout cas, ça a permis de maintenir l'activité de l'antenne de Reims. J'ai pas l'impression que ça ait ralenti plus que ça la progression. Je trouve qu'on a eu un très bon accueil de la ville. Les partenaires sont très chaleureux, ils aiment faire ensemble et ça se sent. Et donc on a plaisir à se retrouver. Bon, en ce moment se déroule la caravane de l'emploi, hein, animée par la ville de Reims. Et on sent que les partenaires sont contents de se retrouver, contents d'échanger, d'aller à la rencontre des publics. Et c'est ça qui manquait. Et j'ai bon espoir que le deuxième semestre va être encore plus dynamique, malgré que déjà certaines actions ont été engagées. C'est vrai qu'on va plus favoriser, par exemple, un parrainage qui est plus facile à mettre en œuvre qu'une visite d'entreprise avec une dizaine de personnes. Mais je ne, je ne doute pas qu'on en organise dès la rentrée de septembre pour pouvoir justement accompagner ces publics. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Reims actuellement, on a accompagné sur 2020, qui était quand même une année assez particulière, on a accompagné plus de 50 personnes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le retour à l'emploi qui est quasiment d'un sur deux. Donc les résultats sont plus que positifs.
L'épisode 4 de « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» s'achève. Notez dans vos agendas que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à 12h pour l'épisode 5. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes sur le site de Radio Primitive, rubrique émission, puis « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» Cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du contrat de ville de la communauté urbaine du Grand Reims.